Vous saviez que choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaînes musicales. Vous écoutez une émission de choc.ca.
C'est l'heure de votre rendez-vous bimensuel sur les frontières, les phénomènes migratoires, le racisme et l'obsession sécuritaire. Et oui, c'est l'émission des apatrides anonymes du jeudi 23 avril 2020 sur choc.ca. C'est notre 25e édition, troisième de suite en confinement, donc tout a été préenregistré. On espère juste que les nouvelles ne seront pas trop passées date au moment de la diffusion. Tous les segments sont enregistrés séparément, donc pas d'entrevue, pas de dialogue, pas d'interaction entre nous. Les apatrides anonymes sont moi-même, Simon, en plus de Marie-Ève et Mathieu. Au sommaire de l'émission, un suivi sur l'accès aux services pour les personnes migrantes au Québec dans le contexte actuel et les conséquences de la crise sur l'immigration. L'aide internationale du Canada pour les réfugiés. Un suivi sur l'inextricable situation indienne. La France sous surveillance. Un portrait du délire fasciste dans lequel on s'enfonce de plus en plus profondément en Hongrie. Et pour une troisième fois, les désormais traditionnelles suggestions d'une confinée. Un peu de musique, évidemment, à travers tout ça. Quelques brèves vont apparaître ici et là, donc avant de vraiment commencer, je vous en sers une immédiatement. Lors de la dernière émission, je vous parlais en introduction d'une initiative du REPAC pour contrer le racisme actuel induit par la pandémie. Des fiches d'information très bien faites sur le racisme. J'aimerais vous parler d'une autre initiative qui vise encore une fois le racisme anti-asiatique, qui ne semble pas s'essouffler à Montréal, au contraire. Il y a le CRAR, le Centre de recherche action sur les relations raciales, qui, en plus de diffuser des conseils pratiques pour aider les Montréalais, Montréalaises d'origine asiatique à réagir au racisme associé à la COVID-19, que certains appellent le virus chinois. Bref, le CRAR lance aussi un cri du cœur à l'intention des gouvernements. En compagnie d'une quinzaine d'organismes issus des communautés asiatiques, mais aussi de d'autres groupes racisés, on est préoccupé par le fait que les gouvernements tardent à dénoncer publiquement et fermement cette vague de racisme anti-asiatique. On se dit aussi préoccupé par le fait que dans le cadre de la stratégie canadienne contre le racisme 2019-2022, le fédéral a distribué les 45 millions de budget à des ressources situées dans plusieurs villes canadiennes hors Québec, en ignorant plus ou moins, dit-on, les demandes des groupes montréalais, qui ont actuellement pas des moyens suffisants pour se battre contre cette déferlante de gestes haineux envers les communautés asiatiques. Vous pouvez aller sur le site du CRAR, crarr.org, pour consulter les fiches d'information, lire le communiqué et voir la liste complète des groupes qui appuient la démarche. On retrouve Mathieu dans un court instant, il va nous faire deux suivis. Un premier sur l'accès aux services pour les personnes migrantes au Québec dans le contexte actuel et un autre suivi sur l'aide internationale du Canada pour les réfugiés en temps de crise. Vous êtes à l'écoute des apatrides anonymes sur choc.ca.
Bonjour, c'est Mathieu avec vous pour vous parler de certaines brèves, certains suivis, des enjeux d'actualité dont on a parlé dans les dernières semaines. Premièrement, il y a deux semaines, j'avais parlé des demandes du groupe canadien pour la justice et la paix au Moyen-Orient, des demandes qui concernaient qui étaient adressées au gouvernement fédéral et qui étaient en lien avec la crise actuelle et certaines aides au niveau national et international. Au niveau international, finalement, le gouvernement fédéral a annoncé trois choses dernièrement. Donc, en premier lieu, 50 millions de dollars pour aider les pays vulnérables à répondre à la crise actuelle. Aussi, soutenir l'appel de l'ONU en faveur de 2 milliards de dollars pour aider les pays les plus pauvres et les communautés de réfugiés un peu partout dans le monde. Et aussi, participer et soutenir au fonds de relance mondial de 5 000 milliards de dollars des pays du G20 pour aider les pays les plus vulnérables à passer au travers de la crise sanitaire et économique actuelle. Donc, ça, c'était les demandes au niveau de l'aide ou du support international. Mais le groupe CJPMO souligne quand même qu'au niveau des Palestiniens, parce que c'est une de leurs préoccupations, et de Gaza, il y a quand même des manquements au niveau du Canada. Par exemple, l'Union européenne a fourni une aide de 82 millions d'euros pour l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Le Qatar s'est engagé à verser 150 millions de dollars pour Gaza. La Turquie a ouvert un hôpital. Le Croissant-Rouge égyptien a envoyé des équipements et l'OMS a envoyé des experts. Donc, Simon, vous avez parlé de Gaza il y a quelques semaines, le potentiel de dangerosité qu'il y a une éclosion dans ce territoire enclavé et fermé, barricadé finalement, par le blocus israélien et égyptien depuis 2006. Actuellement, il y a 12 cas confirmés officiellement, mais on sait qu'à Gaza, il y a seulement 40 lits de soins intensifs pour une population de 2 millions de personnes. Et il y a 2 ans déjà, l'ONU considérait que le système de santé de Gaza était en point de rupture, était inefficace parce qu'il manque de matériel, il manque de plein de choses. Et donc, dans le cadre d'un blocus plus de la pandémie, c'est vraiment une situation appréhendée, très catastrophique. Donc, c'est la préoccupation, entre autres, de plusieurs groupes par rapport à ce qui se passe au niveau des réfugiés et aussi de Gaza, du côté des Palestiniens. Petit suivi sur la prison de Laval. Il y a eu une grève la faim. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines longuement. Il y avait donc au 6 avril 19 personnes toujours détenues à Laval, des personnes migrantes. Actuellement, en date du 18 avril, c'est 11 personnes qui sont toujours détenues. Dans l'ensemble du Canada, au niveau des prisons fédérales, provinciales, pour détenus ordinaires ou migrants, il y a plus de 300 cas officiellement, mais on sait qu'il y en a sûrement plus. Et l'appel à libérer massivement des prisonniers des prisons canadiennes et des provinces n'est toujours pas entendu par Bill Blair et le gouvernement fédéral. Donc la demande est toujours là. Il y a quelques libérations, mais c'est vraiment du cas par cas. Donc il y a toujours un danger donc de contamination et de catastrophe dans les milieux carcéraux au Canada. Et l'autre suivi que je voulais vous faire par rapport aux dernières émissions, c'est la couverture pour les soins de santé pour les personnes à statut précaire ou sans statut. Je vous avais dit il y a 2 semaines que dans le cadre de la crise actuelle, les frais, les soins de santé, les services de santé seraient couverts pour les personnes sans statut, y compris pour la COVID-19, c'est-à-dire entre autres les tests de dépistage et aussi les traitements, mais aussi pour les soins en général, comme l'Ontario avait fait. Et je me suis trompé. C'est-à-dire que j'ai vérifié mes chiffres, mes sources, et je suis tombé sur un tableau de la RAMQ, la Régie d'assurance maladie du Québec, du 30 mars 2020, donc récemment, il y a 2 semaines. Et il y a toute une nomenclature des différents statuts, des différentes personnes qui sont couvertes ou non selon les types de soins. Peut-être vous dire, en gros, les personnes ayant le statut de réfugié, ça, il n'y a pas de problème, c'est couvert pour la COVID ou non, pour les autres soins. Les nouveaux arrivants, c'est la même chose. Les nouveaux arrivants, c'est-à-dire établis avec une résidence permanente. Il y a une catégorie que je ne connaissais pas, les travailleurs ou étudiants étrangers en provenance d'un pays signataire d'une entente de sécurité sociale avec le Québec. Ça, c'est des pays européens surtout, style Portugal, Danemark, Grèce, France. Eux sont couverts. Les travailleurs étrangers sont couverts aussi, c'est-à-dire les gens en séjour temporaire pour travailler. Les travailleurs ou étudiants étrangers, y compris ceux avec permis de séjour expiré, c'est couvert pour la COVID, mais pas pour les soins généraux. Sinon, les demandeurs d'asile revendicateurs du statut de réfugié, c'est couvert en vertu du programme fédéral de santé intérimaire qu'on connaît. Et on arrive aux personnes sans statut ou sans papier, c'est couvert seulement pour la COVID-19, mais non couvert pour les autres soins. Et le collectif Soignons la justice sociale, qui défend les personnes migrantes au niveau des soins de santé, qui est formé entre autres de professionnels du réseau ou du milieu communautaire, de gens du milieu communautaire qui travaillent en santé et services sociaux, dénonce cette semaine justement le fait que les personnes sans statut ou avec statut précaire ne sont pas couverts dans une optique de santé publique évidemment et d'égalité des droits. Donc à suivre sur cette question-là, sur la question des soins de santé, couverts ou non pour l'ensemble des personnes, ce qui serait une belle occasion actuellement d'avoir une ouverture et de régler ce problème-là qui date de plusieurs années, mais on n'est toujours pas rendu là au Québec.
Merci beaucoup, Mathieu. Les apatrides vous reviennent avec Marie-Ève après les quelques notes de musique qui s'en viennent. Juste préciser les marqueurs ou ce qu'on appelle les petites virgules musicales qui ponctuent nos émissions. Bien, cette semaine, c'est une gracieuseté de Danny Placard. Tous des petits extraits isolés de la même pièce instrumentale, « There Was a Friend Part 1 », c'est sur son dernier album qui est sorti en janvier 2020. Donc, tout au long de l'émission, Danny Placard va apporter sa petite touche musicale particulière qu'on aime beaucoup, même si ses excellents textes ont finalement peu de rapport avec les thématiques qu'on aborde aux apatrides anonymes. On va entendre une pièce complète du dernier album de Danny Placard à la fin de l'émission. Alors, après ces quelques notes, on retrouve Marie-Ève qui nous parle des conséquences de la crise actuelle sur l'immigration, sur les personnes migrantes au Québec. aux Apatrides Anonymes, émission du 23 avril 2020 sur choc.ca.
Depuis que les apatrides anonymes sont enregistrés en confinement, on a traité des façons dont les différents États nord-américains et européens, entre autres, réagissent à la crise actuelle, principalement en fermant les frontières, en expulsant les demandeurs d'asile ou en les enfermant dans des camps et en interdisant les opérations de sauvetage en mer. En revanche, on n'a à peu près pas parlé du Québec, alors que ici aussi, évidemment, la pandémie et ses conséquences économiques ont des effets sur les politiques migratoires et les communautés migrantes. Avec la crise économique qui se dessine et le taux de chômage qui atteint des sommets dans plusieurs secteurs, on ne se surprendra pas que les représentants du milieu économique réclament maintenant que le gouvernement du Québec revoie à la baisse ses seuils d'immigration si la relance tarde à venir. On voit bien ici la vision strictement utilitaire et capitaliste que le Québec Inc. a de l'immigration, lui qui demandait l'année dernière au moins 60 000 immigrants et immigrantes par année pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Rappelons que le gouvernement Legault prévoyait de hausser en 2020 le nombre maximal de nouveaux arrivants à 44 500, puis de les faire passer à 47 500 en 2021. En 2022, le nombre de personnes immigrantes admises devait se situer entre 49 500 et 52 500. Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est que Québec solidaire tienne le même discours. Alors que QS réclamait l'an dernier un retour immédiat à un seuil d'environ 52 000 immigrants et immigrantes admises chaque année, en entrevue, son porte-parole en matière d'immigration, Andrés Fontecilla, a fait valoir le contexte, et je cite, « tout à fait extraordinaire » pour dire qu'il fallait faire preuve au Québec d'une grande flexibilité concernant les seuils d'immigration. Mais c'est aussi cette vision utilitariste de l'immigration qui est derrière les pressions du milieu des affaires pour que le gouvernement fédéral prolonge de 90 jours les permis des travailleurs étrangers temporaires. D'ailleurs, pour le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et je cite, « c'est essentiel pour les entreprises qui ont besoin de ces employés-là ». Donc, les besoins et les angoisses des travailleurs étrangers, des étudiants et étudiantes internationaux et des personnes qui veulent s'établir de façon permanente au Québec, on s'en fout. Parce que dans les faits, si ces permis-là ne sont pas renouvelés, toutes ces personnes doivent normalement quitter le pays et dans le contexte actuel de crainte de la maladie, s'ajoute le stress d'une perte de revenus et du statut d'immigration. Et c'est sans parler des délais supplémentaires dans le traitement des dossiers d'immigration qui ont été annoncés par le ministre Simon Jolin-Barrette au début du mois d'avril. C'est donc la détresse psychologique qu'il constate chez un grand nombre de ces personnes qui a poussé des organismes d'aide aux immigrants et immigrantes à demander eux aussi une prolongation des visas. Les personnes qui souhaitent postuler au programme de l'expérience québécoise, le PEC, ou encore renouveler un permis d'études ou de travail, ou obtenir une résidence permanente ou un certificat de sélection du Québec, peinent actuellement à obtenir des réponses des différents gouvernements. Elles vivent donc avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce qui crée beaucoup d'angoisse. Dans ce contexte-là, les organismes d'aide aux immigrants et immigrantes ne fournissent évidemment pas à la tâche. Par exemple, Accueil Liaison pour arrivants, qui emploie des travailleurs sociaux et qui offre des services gratuits dans 15 langues, se dit débordé. Ils songent même à gonfler ses rangs en embauchant des psychologues spécialisés en approche clinique interculturelle. Pour les travailleurs étrangers temporaires, la situation est particulièrement préoccupante et urgente. Puisque plusieurs ont été mis à pied en raison de la COVID-19 ces dernières semaines, ce qui les place dans une situation plus précaire que jamais. C'est que le type de permis qu'ils possèdent les empêche de trouver un nouvel emploi. Il s'agit d'un permis de travail que l'on dit « fermé », c'est-à-dire que Il leur donne le droit de travailler seulement dans un poste précis pour un seul employeur. Certains détiennent leur certificat de sélection du Québec ou encore sont sur le point d'obtenir leur résidence permanente ou encore habitent au pays depuis suffisamment longtemps pour être admissibles à l'assurance-emploi. Mais plusieurs n'ont pas cette chance-là. Par exemple, ceux et celles qui sont arrivés au Québec dans les dernières semaines et donc qui sont en période d'isolement obligatoire ou qui n'ont pas cumulé assez d'heures pour être admissibles à l'assurance-emploi. Dans ce contexte-là, plusieurs voix s'élèvent pour demander que ces règles soient rapidement assouplies pour les travailleurs et travailleuses qui sont déjà sur le territoire et qui sont en bonne santé, mais aussi pour que le fédéral cesse de considérer comme une infraction le fait de travailler pour un employeur, un lieu de travail ou une fonction différente de celle pour laquelle le permis de travail a été approuvé. Et parlant du fédéral, lui aussi a une vision utilisatrice de l'immigration, mais pour remplir les coffres de l'État cette fois-ci. Malgré la pandémie, le gouvernement a jugé bon d'augmenter les tarifs pour déposer une demande de résidence permanente. Et c'est une hausse substantielle, puisqu'à partir du 30 avril prochain, les tarifs vont augmenter de 50 % que l'on veuille immigrer en Ontario, au Québec ou dans n'importe quelle autre province. Les tarifs vont ensuite augmenter tous les deux ans d'environ 2 %. Pour donner un exemple concret, ça veut dire qu'un couple avec un enfant devra débourser au total 2875 $ au lieu de 2230 $. Pour justifier ces nouveaux tarifs-là, le gouvernement Trudeau évoque la rentabilité, hein, on ne s'en surprendra pas, et il estime que ces hausses vont permettre de rapporter, et je cite, « un bénéfice net de 76,9 millions de dollars sur 10 ans ». Le ministère de l'Immigration peut bien affirmer que ces hausses de tarifs étaient prévues bien avant la crise, mais dans le contexte actuel, mettons qu'il aurait pu se garder une petite gêne et retarder leur entrée en vigueur.
Merci Marie-Ève pour ce portrait, ben pas très réjouissant, mais nécessaire de la situation actuelle au Québec. On va retourner en Inde dans une minute. Je dis retourner parce que Mathieu vous a parlé de ce pays-là dans la dernière émission. Mais comme c'est une situation vraiment complexe qui évolue rapidement, on considérait que ça valait la peine d'approfondir le dossier. Vous écoutez Les Apatrides Anonymes sur choc.ca.
Je vais vous parler de l'Inde. Il y a deux semaines, je vous ai parlé de ce qui s'était passé depuis un an environ avec depuis le deuxième mandat du gouvernement nationaliste du BJP de Narendra Modi, avec toutes les mesures, les lois contre les minorités, dont les musulmans, qui avaient été votées et appliquées, toutes les émeutes que ça donnait, les manifs, les confrontations. On va en parler un peu tantôt, mais je vais vous parler en premier lieu de la situation actuelle en lien avec la crise, la pandémie, parce que ce genre de gouvernement autoritaire-là, ben malheureusement, profite de ces moments-là pour continuer leur politique, même les accentuer et même en beurrer plus épais. On va parler de la Hongrie tantôt, entre autres plus tard aussi. Donc, peut-être vous dire qu'en Inde, depuis le 25 mars, il y a un confinement total des 1,3 milliards d'habitants, ce qui est quand même quelque chose, dans un pays où il y a 800 millions de personnes pauvres officiellement. Donc, ça a causé, entre autres, un exode urbain de millions de personnes. Vous avez dû voir ça dans les médias. C'était des grandes marches. Les gens partaient à pied pour faire des centaines de kilomètres. C'était assez impressionnant. Et donc, l'Inde, comme par hasard, un des foyers d'éclosion qui a été beaucoup publicisé dans les médias indiens et internationaux, ben c'est un rassemblement religieux musulman qui a eu lieu à la mi-mars en plein cœur de Delhi. 3400 personnes qui ont participé à une rencontre à l'appel de la Tablighi Jamaat, Association pour la prédication. Et évidemment, ben ça fait encore plus pointer le doigt ou la responsabilité vers les musulmans et musulmanes, comme ça arrive beaucoup en Inde depuis toujours, mais depuis quelques temps particulièrement. Certains des participants ont été déclarés contaminés, d'autres sont morts. Mais après le 15 mars, la date de l'événement officiellement, il y a plus de 2000 personnes qui sont restées sur les lieux. Finalement, la police a évacué tout ce beau monde-là le 31 mars et le 1er avril. Mais la communauté musulmane n'est pas contente de ce qui est arrivé. Il y a un grand malaise parce que déjà que la communauté musulmane est discriminée et est un peu en marge de la société, est frappée par la pauvreté, un accès limité aux services, la discrimination et des lois spéciales. Donc, une poignée de religieux a décidé de faire un événement, de le continuer malgré les mesures qui étaient demandées. Ça a fait un gros tohu-bohu, disons, dans la communauté musulmane et dans l'ensemble de la situation en Inde, de la population en Inde. Surtout que ces personnes-là qui ont participé au rassemblement se sont trouvées un peu partout, en Asie aussi, puis qu'on essaie de les retrouver. En tout cas, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a ça un peu dans le décor, cet événement-là, qui a été beaucoup publicisé, puis qui nuit finalement aux personnes musulmanes et à leurs revendications. Sinon, ben, je suis tombé sur un article de Reporters sans frontières sur un peu le traitement de l'État indien, de l'information et de la liberté de presse. C'est assez intéressant de voir ça. Ben, c'est pas très joyeux, mais c'est intéressant. Donc, juste avant le confinement, le 25 mars, le premier ministre Modi a enjoint les propriétaires des 20 plus grands groupes de presse du pays, et je cite, à se limiter à des récits positifs sur la gestion de la pandémie et du confinement et de servir de lien entre le gouvernement et le peuple. Quelques jours plus tard, le 29 mars, on apprenait par la fuite d'un document du ministère de la Santé que le pays était entré dans une phase de contamination communautaire dite supérieure, tandis que le gouvernement continuait d'affirmer que c'était une phase inférieure de transmission limitée. Donc, évidemment, ça a mené beaucoup de journalistes spécialisés en santé particulièrement à adresser aux autorités le 30 mars une série de questions sur la gestion de la crise et du confinement et ils n'ont pas eu de réponse évidemment du gouvernement. Donc ça, c'est un peu le décor général. Sinon, le 31 mars, le gouvernement a déposé à la Cour suprême une demande de censure préalable des médias sur tous les sujets relatifs à la pandémie, obligeant ainsi les journalistes à ne publier que des informations validées par le gouvernement. Face au tollé, la Cour suprême d'Inde a finalement décidé de un peu atténuer ce jugement-là, mais ça reste quand même très contraignant. On parle ici, ils ont ordonné aux médias de se référer exclusivement à la version officielle de la situation pour éviter la diffusion de fausses nouvelles et de répandre le de seulement reprendre le bulletin de santé du pays publié quotidiennement par le gouvernement. Donc, on leur dit pas qu'ils peuvent pas rien dire, mais ils doivent quand même prendre les versions officielles. Donc, le 1er avril, le ministère de la Santé a expédié le point de presse en moins de 15 minutes et les fonctionnaires ont répondu seulement à deux médias, l'agence de presse Asian News International et la chaîne publique Doordarshan, qui sont deux médias très proches du BJP, le parti du premier ministre Modi. Au Cachemire, le 3 avril, le gouvernement local, on sait qu'il est sous état d'urgence depuis plusieurs mois. Donc, ils ont prolongé pour la cinquième fois le blocage des réseaux Internet et mobiles dans la région, et ce, bien que la Cour suprême a jugé depuis janvier que cette fermeture des médias sociaux et des médias en général était inadmissible. Au niveau des journalistes, plus précisément, on parle donc du Club de presse du Cachemire qui a dénoncé le directeur régional des services de santé après qu'il ait ordonné aux médecins et au personnel paramédical de ne pas parler aux journalistes en aucun temps sur la crise actuelle. Plusieurs médias journalistes font par ailleurs l'objet de poursuites judiciaires. Le site indépendant The Wire a eu une plainte contre eux déposée par le premier ministre d'un État, l'Uttar Pradesh, donc pour avoir diffusé des fake news. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que le premier ministre de l'Uttar Pradesh, de l'État d'Uttar Pradesh, avait participé le 25 mars à un rassemblement religieux malgré le confinement. Donc, le journaliste fait actuellement l'objet d'une enquête et est accusé de désobéissance à un ordre émis par un fonctionnaire et la diffusion d'informations rumeurs dans l'intention de susciter la crainte du public. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Sinon, une plainte a été déposée contre un autre reporter, toujours dans l'Uttar Pradesh. Il lui est reproché d'avoir publié des remarques répréhensibles sur le premier ministre Modi et le leader régional, le même que tantôt, qui s'appelle Yuji Adiyanta. Sur les réseaux sociaux, il aurait fait des critiques et il est accusé donc de diffamation et offense perpétrée avec l'intention de susciter la peur ou des troubles au sein du public. Un autre journaliste a été arrêté par la police de Madras parce qu'il a filmé un employé de pharmacie en train de distribuer des médicaments à des patients sans ordonnance. Et il est accusé de tricherie, de falsification et d'avoir empêché un fonctionnaire de s'acquitter de ses fonctions. Un autre journaliste a été arrêté pour avoir publié sur les réseaux sociaux des informations sur la situation de la pandémie dans sa ville, donc Mounjer. Donc, il y a une série comme ça d'arrestations et d'intimidations. Et pour terminer, contre les femmes journalistes, évidemment, la journaliste indépendante Vidya Krishnan a publié un article dans le The Atlantic aux États-Unis qui parlait de la brutalité de la gestion indienne de la crise, entre autres avec les exactions policières, la violence policière. Et évidemment, ça a entraîné une campagne de haine en ligne avec des menaces de mort, des appels au viol, au meurtre, hein, comme d'habitude. Et elle a confirmé que les auteurs de ces messages étaient en lien avec des responsables du BJP. Et une autre journaliste indépendante fait aussi l'objet d'attaques en ligne, orchestrées par des militants du BJP, parce qu'elle critique l'appel du premier ministre Modi à allumer des bougies traditionnelles hindouistes pour combattre la propagation du virus. Très brillant. Tout ça pour dire que finalement, le gouvernement a décidé de rendre les citoyens responsables donc des mesures à prendre pour la crise. Et tout ça, selon beaucoup d'observateurs, c'est pour masquer un système de santé déficient, voire inexistant, pour la plupart des gens, et masquer les réels chiffres de la pandémie, parce qu'on sait que déjà en Inde, dans la normalité, entre guillemets, 80% des décès ne sont pas enregistrés. Donc, voilà pour l'Inde dans les nouvelles récentes. Je vous en parle dans un autre bloc. Je vous parle d'une analyse plus générale de ce qui se passe dans les dernières années dans ce très, très grand pays.
Meet me at the top of the mountain. We'll catch the light and move when it moves us. Interstellar climb, transcendental time. Hush, let's stay a while.
On entendait la pièce New Math de la Montréalaise Krista Muir. Je ne sais pas si je prononce bien, M-U-I-R. Ça vous dit peut-être quelque chose. On la connaissait avant sous le pseudonyme de Lady Rosin Lucille. Elle sort tout juste un album qui porte le même nom que l'extrait qu'on vient de jouer, New Math. On redonne immédiatement le micro à Mathieu pour la suite de son dossier sur l'Inde.
Toujours Mathieu au micro avec vous pour parler de l'Inde, un pays fascinant où il se passe beaucoup de choses et dont on n'entend parler pas beaucoup quand même. Donc, une analyse très générale, un peu rapide, pas en profondeur, c'est pas l'objectif, mais parler un petit peu de ce qui se passe en Inde, vu que je vous en parle aujourd'hui, j'en ai parlé il y a 2 semaines. Donc, une analyse basée sur un article du média The Conversation du 4 mars dernier, qui nous rappelle un peu d'où vient le fameux premier ministre indien Narendra Modi, qu'est-ce qui s'est passé avec lui. La dernière fois, je vous avais parlé des pogroms qui avaient eu lieu en février à Delhi et j'avais fait référence en 2002 dans l'état du Gujarat, qui avait eu des massacres de milliers de musulmans aussi. Et à l'époque, le premier ministre du Gujarat était Le ministre en chef qui appelle était Narendra Modi. Donc, c'est un peu la genèse de ce qui va se passer quand il va prendre le pouvoir en Inde pour l'ensemble du pays en 2015. Faut savoir que son premier mandat en 2015, c'est un mandat d'ultralibéralisme économique. Donc, parce qu'en Inde, c'est quand même un pays qui a une historique un peu plus socialiste, social-démocrate. Et lui a appliqué la même recette au Gujarat, ce qui a donné une espèce de levier pour devenir premier ministre de l'Inde, parce que supposément que ça a donné des bons résultats au niveau économique dans le Gujarat. Donc, premier mandat en 2015, des promesses style être compétitif par rapport à la Chine, alléger la bureaucratie, c'est-à-dire diminuer le rôle de l'État, des investissements financiers étrangers directs, programme manufacturier Made in India, ça c'est promesse. Il a beaucoup joué avec la taxe de vente ajoutée qui a servi à financer ses opérations. La démonétisation qui a supprimé un paquet de billets, de petits billets de banque, de billets plus anciens qui étaient beaucoup reliés à l'économie informelle. Donc, toutes ces mesures-là économiques ont beaucoup nui aux plus pauvres. Donc, encore une fois, le lien avec les minorités, les castes inférieures. Et donc, ça a été difficile dans ce contexte-là. Et ça a caché le programme donc du BJP pour ce premier mandat en 2015 à 2019. Son mandat plus nationaliste, ethnique, discriminatoire, pour ne pas dire raciste. Donc, caché le programme du BJP, le fameux, j'en ai parlé il y a deux semaines, l'Hindutva, qui est l'idéologie ultranationaliste hindouiste. Il faut savoir que le BJP a des liens étroits depuis longtemps avec le RSS, qu'on peut traduire en français par Organisation Patriotique Nationale, une organisation paramilitaire fondée en 1925 sur le modèle des phalangistes fascistes italiens. Et Narendra Modi a été militant au RSS dans les années précédant ses rôles politiques officiels. Donc, tout ça pour dire que dans le premier mandat du BJP et de Modi, on a développé des milices ou vigilantes, donc des groupes de citoyens autoproclamés qui décident d'appliquer des lois, dont celle sur les bovins, qui interdit l'abattage de bovins, et ça visait donc des musulmans qui étaient lynchés. Des personnes de basse caste étaient aussi attaquées. Des agressions contre les couples mixtes, par exemple. Tout ça en pleine impunité, encouragé, même organisé par des membres du BJP. Mais ça a passé un peu tout ça inaperçu dans le premier mandat de Modi parce qu'on était sur les enjeux économiques, sur les promesses, sur les réalisations, sur les changements. Donc, ça nous mène à la campagne électorale pour le deuxième mandat en 2019, en avril-mai 2019. Qui, lui, n'est pas basé sur l'ultra-libéralisme, mais sur l'insécurité et le nationalisme. Donc, deuxième partie du mandat, du programme, pardon. Donc, juste avant les élections, il y a un rapport qui sort sur le chômage qui est le plus haut en 50 ans. On y dévoile que la croissance, les investissements, la consommation en aide est en baisse. Donc, Modi, devant ce constat-là, décide de faire une campagne électorale basée, surprise, sur l'insécurité, sur la discrimination. Donc, au Cachemire, qui est partagé avec le Pakistan, où il y a un état d'urgence, il y a des groupes rebelles, il y a de l'insécurité. De l'insécurité, c'est-à-dire de l'instabilité. Des accrochages militaires avec le Pakistan. On bombarde des positions des militants pro-pakistanais. Il y a des attentats. Donc, il se sert de ça pour Modi, pour se mettre en chef d'État, en chef militaire. Il accuse les migrants irréguliers du Bangladesh et les Rohingyas. Il est accusé, plusieurs membres du BJP les accusent d'être des termites, c'est le terme utilisé régulièrement, et de les jeter dans le golfe du Bengale, y compris les réfugiés Rohingyas, hein, qu'on connaît quand même assez bien maintenant. Donc, c'est un peu ça l'ambiance de la campagne. Il remporte une élection avec une forte majorité. Et après les élections, plusieurs mesures sont appliquées, dont celle dont je vous ai parlé il y a deux semaines, c'est-à-dire le registre national de citoyenneté, la loi sur la citoyenneté, mais aussi, par exemple, attribution de lieux historiques religieux musulmans à des communautés hindouistes, changer la toponymie de plusieurs villes, rues, villages qui rappelaient l'histoire qui est non-hindoue. Donc, une espèce de nettoyage au niveau de la mémoire et au niveau des lieux. Et finalement, ça nous mène entre autres au pogrom de fin février dernier, où il y a eu des centaines de personnes de tuées, entre autres à Delhi, des dizaines ou des centaines selon les chiffres. Et donc, ça nous mène au confinement actuel et l'Inde où le gouvernement nationaliste ultralibéral décide de renforcer son pouvoir, de contrôler les gens à travers cette crise-là et les stratégies de confinement pour éviter la pandémie qui, de toute façon, va se répandre parce qu'en Inde, actuellement, comme je vous disais, le système de santé ne fonctionne pas et en plus, la pauvreté est endémique et c'est un pays quand même assez particulier, très, très populeux. Donc, voilà pour l'Inde, topo aujourd'hui et on en parlera peut-être dans les prochaines semaines.
sur choc.ca aux apatrides anonymes. On remercie Mathieu pour cette mise à jour sur ce qui se passe en Inde. Ça nous change des points de presse quotidiens. En tout cas, bref, il y a toutes sortes de nouvelles qui passent dans le beurre depuis quelques semaines. Il faut quand même rester vigilant. Il y a des choses qui se passent hors du spectre coronavirus. Avant de redonner le micro à Marie-Ève, je vous donne deux exemples de nouvelles quand même assez importantes qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines parce que pour l'instant, c'est pas super clair et c'est resté plus ou moins sous le tapis. Alors, nouvelle nébuleuse numéro 1, selon quelques articles de presse un peu abstraits, aussi de façon plus formelle dans les gazettes officielles de la colline parlementaire à Ottawa, bon, dans son nouvelle langue habituelle, c'est sûr, on apprenait que le SCRS, notre service de renseignement, pourra maintenant, grâce à un amendement adopté en 2019, recueillir et utiliser des bases de données contenant nos renseignements personnels de manière beaucoup plus massive, beaucoup plus directe pour, dit-on, dégager des tendances en lien avec la sécurité nationale. Donc ça, c'est le discours officiel. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qu'on peut comprendre et qui n'est pas clairement explicité, c'est que le lien entre les fournisseurs Internet et de téléphonie et le service de renseignement, ce sera plus fluide, plus direct, plus perméable. Ou est-ce que je suis dans le champ et ça concerne d'autres bases de données comme bancaires ou de santé administrative? Il faudrait que le gouvernement soit plus transparent. Évidemment, on nous dit que tous les mécanismes pour faire en sorte de protéger la vie privée du citoyen lambda vont être mis en place, mais comme tout le reste, très peu d'informations concrètes. Les associations de protection des droits de la personne sont inquiètes et vont surveiller ça. Est-ce qu'on se dirige vers un scandale du type NSC aux États-Unis? On verra. Nouvelle nébuleuse numéro 2. En fait, pas tant nébuleux, mais dossier à suivre, dossier un peu en suspens par les temps qui courent. Deux organismes, le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles, avaient demandé à la Cour suprême du Canada de suspendre temporairement la loi québécoise sur la laïcité de l'État de Legault et de Jolin Barrette, qui est bien cachée d'ailleurs ces temps-ci. En tout cas, ce que les deux organismes de défense de droit voulaient, c'était que tant que les jugements ne sont pas rendus dans les recours qui vont être éventuellement entendus, c'est qu'on suspende toutes les dispositions de la loi et la Cour suprême a refusé cette demande, donc la loi continue d'être appliquée et il n'y a pas d'autres recours juridiques possibles pour l'instant. Donc les foulards, les masques, tout ça en période de pandémie, ça demeure interdit dans les services publics. On est ironique, ou la réalité l'est, à vous de choisir. Bon, question de rester dans les droits de la personne, on va aller en France avec Marie-Ève qui va nous parler de toutes sortes de dérives en cette période de pandémie. On est sur choc.ca aux apatrides anonymes. Marie-Ève, à toi la parole.
On le sait, la France est un pays de flics. Après tout, le gouvernement français n'a jamais levé l'état d'urgence décrété en 2005 avec les attentats du Bataclan et Charlie Hebdo. Et comme toutes les forces de l'ordre dans le monde, la police française n'hésite jamais à abuser de ses pouvoirs. Dans le contexte d'ultra-confinement en vigueur depuis le 17 mars en France, les flics y sont plus zélés que jamais. Rappelons que depuis cette date-là, le 17 mars, les allées et venues de la population y sont limitées et contrôlées par le biais d'une attestation de déplacement dérogatoire. Oui, oui, c'est le bon terme, c'est le terme officiel. Cette attestation-là est à usage unique, c'est-à-dire qu'on doit en remplir une, la signer et la dater pour chaque sortie. Donc, en gros, là, si chaque Français remplit une déclaration, disons, deux fois par semaine, pendant 3 mois, on approche le milliard d'attestations. Aussi, seuls quelques motifs sont acceptés, hein, comme se rendre chez son médecin, faire un peu d'exercice physique ou encore promener son chien, ou bien effectuer des achats de première nécessité. Depuis, les témoignages d'abus se multiplient. Par exemple, ce qui constitue justement un achat de première nécessité. Des gens ont été verbalisés parce qu'ils ont acheté des gâteaux qui sont jugés non essentiels. La même chose s'est reproduite avec du shampoing, mais aussi, étonnez-vous bien, avec des serviettes hygiéniques et des tests de grossesse. Inutile de dire qu'un con de flic n'a aucune idée de quoi ça peut bien servir. D'autres questions concernent aussi cette fameuse attestation. Est-ce qu'elle doit être imprimée ou est-ce qu'elle peut être manuscrite? Si elle est manuscrite, est-ce qu'on doit recopier les mentions utiles ou toutes les mentions? Est-ce qu'on peut la remplir au crayon ou au stylo? Tous ces cas-là ont donné lieu à des verbalisations, même s'il existe des règles pour vrai qui expliquent ce qu'on peut faire et pas faire. Mais il y a aussi les questions de durée de sortie, de distance maximale parcourue, qui, elles, ne sont pas précisées nulle part. Bref, un flou artistique qui fait toute la place à l'arbitraire. Par exemple, ce cas soulevé par un homme de confession musulmane contrôlé loin de chez lui. Bon, il n'y a pas de boucherie halal à proximité de son domicile. Il doit donc faire plusieurs dizaines de kilomètres pour aller s'approvisionner dans une grande ville voisine. Que fait-on? Est-ce qu'on doit considérer qu'il peut manger du poisson ou d'autres aliments? Ou encore, quand un automobiliste est contrôlé avec des courses, il n'est théoriquement pas verbalisé. Mais si le véhicule est vide et que la personne est à plusieurs kilomètres de chez elle, on lui file une amende. Le flou entourant l'attestation donne aussi lieu à des abus beaucoup plus graves, là on s'en doute. Par exemple, une femme qui s'est fait taiser parce qu'elle n'a pas montré son attestation, ou encore un homme en pleine crise de psychose qui s'est fait verbaliser parce qu'il l'avait mal rempli. Et que faire si on écrit mal, qu'on ne sait pas écrire ou en tout cas qu'on ne sait pas écrire le français? Et surtout, que faire si on est noir ou arabe? Parce que dans ce cas-là, peu importe l'attestation, on a tort de toute façon. Et dans les quartiers populaires à forte population immigrante, les contrôles des flics se transforment comme on peut s'y attendre en profilage racial. L'Observatoire des libertés publiques a sonné l'alarme sur des témoignages vidéo, oraux ou écrits, qui démontrent des réactions disproportionnées des forces de l'ordre. L'organisme explique aussi que les quartiers dans lesquels les situations sociales et matérielles des habitants et habitantes rendent le confinement le moins supportable sont aussi les quartiers dans lesquels le non-respect des règles semble susciter les réactions les plus sévères et disproportionnées de la part des flics. Et SOS Racisme rappelle à juste titre que le confinement est particulièrement dur à vivre pour certaines familles dans les quartiers populaires en raison des conditions de logement. Une altercation particulièrement choquante s'est produite à la fin mars dans la petite commune des Ulysses, qui est située à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris. Sofiane, 21 ans, qui quittait le domicile de son père vers chez sa mère pour y prendre une douche et ramasser quelques affaires avant d'aller travailler. Il est livreur chez Amazon. Alors qu'il se déplace sans attestation, Sofiane croise des flics de la brigade anticriminalité et se sauve pour échapper au contrôle. Il y a deux vidéos tournées par des habitants qui montrent la suite. Le jeune homme est interpellé, plutôt brutalement, puis conduit sous un porche. La scène se déroule devant la porte du hall d'entrée. Un des policiers lui touche les parties génitales et lui dit « T'aimes ça, salope, hein? » Un autre lui met une main sur la bouche, tandis que Sofiane est rouée de coups jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Selon son avocat, dans la voiture en route vers le commissariat, les flics lui ont dit « On va te ramener dans la forêt et on va te brûler, t'es une petite pute ». Sa garde à vue pour, tenez-vous bien, rébellion, a été levée le même soir et n'a pas donné de suite, il n'a pas été poursuivi pour quoi que ce soit. Et comme si c'était pas assez, le lendemain, la mère de Sofiane a reçu une contravention pour avoir conduit son fils à l'hôpital sans être muni d'une attestation. Évidemment, une plainte a été déposée pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique. Donc, 10 jours seulement après le début du confinement, on en était à plus de 225 000 verbalisations qui ont rapporté plus de 30 millions d'euros à l'État français. J'ai eu beau chercher, j'ai malheureusement pas trouvé des chiffres à jour, mais on estime que 10 % des amendes données dans le pays l'ont été en Seine-Saint-Denis, qu'on sait qu'il y a un quartier à forte population racisée et immigrante. Bref, en ces temps d'incertitude, on peut être sûr d'au moins une chose qui, elle, ne change pas. On n'est décidément pas tous et toutes égaux devant la loi, puis non, ça va pas bien aller.
Merci Marie-Ève pour ce voyage dans le temps en France occupée. Simon de retour au micro aux Apatrides Anonymes. Tantôt, je vous ai parlé de quelques nouvelles qui passent un peu sous le radar en cette période où tous les projecteurs sont braqués sur la pandémie. Tout actuellement est présenté, analysé en fonction de ça, mais il se passe d'autres choses. Depuis des années, avant de parler de la crise actuelle, c'était la grande crise humanitaire du 21e siècle, ce qu'on a appelé la crise migratoire, qui prend place en bonne partie dans la mer Méditerranée. Eh bien, ça continue. Les traversées clandestines se poursuivent, que ce soit entre la Turquie et la Grèce, entre la Libye et l'Italie, entre le Maroc et l'Espagne. C'est la routine. Les gens continuent à fuir la guerre, l'exploitation, les conditions de vie misérables. Ça se passe beaucoup en Méditerranée, mais aussi sur la Manche entre la France et l'Angleterre. On voit des traversées aussi de plus en plus entre l'Indonésie et l'Australie. Et un peu en écho avec ce dont Mathieu nous parlait autour de l'Inde, on n'en a pratiquement pas entendu parler, mais une nouvelle qui est arrivée à nous vers la fin avril, le même genre de traversée qu'on voit quotidiennement en Méditerranée, mais cette fois dans le golfe du Bengale, une soixantaine de Rohingyas sont morts sur un bateau transportant des centaines de réfugiés affamés refoulés en mer où ils ont dérivé pendant 2 mois. C'est l'AFP qui rapporte le témoignage de 2 survivants qui sont restés coincés dans un chalutier surpeuplé. 500 personnes à bord qui ont dû survivre 2 mois, 2 longs mois, imaginez, avec plus de nourriture, plus d'eau potable, des dizaines de cadavres. Ça s'est passé entre l'Inde, le Myanmar et le Bangladesh. C'est finalement le gouvernement du Bangladesh qui est arrivé au secours du bateau qui dérivait dans la mer. C'est quand même une catastrophe assez importante et je parierais que la plupart d'entre nous en avaient même pas entendu parler. On va prendre une pause musicale. Mathieu sera avec nous dans quelques minutes avec le gouvernement hongrois qui profite bien de la crise actuelle pour pousser son agenda fasciste encore plus loin. Il va nous expliquer ça dans 4 minutes. On va en musique avec Grand Corps Malade, le slam Effet secondaire, sorti en réaction à la crise et au sentiment claustrophobique vécu en France avec les abus policiers dont Marie-Ève nous parlait tantôt. Climat de surveillance et de délation qu'on vit aussi ici au Québec et à Montréal. Comme toujours, Grand Corps Malade met le doigt sur les maux de nos sociétés avec l'acuité et la finesse qu'on lui connaît. On écoute ça sur choc.ca.
En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. Si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables, s'il essayait aussi de nous rendre la vue sur nos modes de vie devenus préjudiciables, si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi, on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris. La nature fait sa loi en reprenant ses droits, se vengeant de notre arrogance et de notre mépris. Et est-ce un hasard si ce virus immonde n'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants? Il s'en prend aux adultes responsables de ce monde, il condamne nos dérives et épargne les innocents. Ce monde des adultes est devenu si fébrile, l'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles, et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration, s'il essayait aussi de nous rendre la mémoire sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions. On se découvre soudain semblables, solidaires, tous dans le même bateau pour affronter le virus. C'était un peu moins le cas pour combattre la misère, on était moins unis pour accueillir l'Aquarius. Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel, les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme, et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel. On a du temps pour la famille, on ralentit le travail, et même avec l'extérieur on renforce les liens. On réinvente nos rituels, plein d'idées, de trouvailles, et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens. Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros, ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines, ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux, pendant que le CAC 40 est en quarantaine. Bien avant le corona, l'hôpital suffoquait, il toussait la misère et la saturation. Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets, maintenant qu'il y a la queue en réanimation. On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre, quand l'État asphyxie tous nos services publics. Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui livrent, on redécouvre les transparents de la République. Alors quand ce virus partira comme il est venu, que restera-t-il de tous ses effets secondaires? Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu? Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire?
On poursuit avec la thématique des dirigeants autoritaires qui profitent de la crise actuelle pour renforcer leur pouvoir, écraser plus leur population. On va en Hongrie, hein, Viktor Orban, dont on vous a souvent parlé, un dictateur sans le nom officiel, très autoritaire, très dirigiste et très nationaliste, qui est au pouvoir depuis 10 ans quand même en Hongrie. Donc, le 30 mars dernier, le Parlement a adopté aux 2/3, parce qu'il faut savoir qu'Orban contrôle les 2/3 de l'Assemblée avec son parti, le Fidesz, donc a adopté un projet de loi qui permet au président de légiférer par ordonnance dans le cadre d'un état d'urgence à durée indéterminée. Donc, on parle ici donc d'un état d'urgence, vraiment un vrai, sans date limite, et où le Parlement ne sera plus consulté, à moins que le président décide de le faire. Donc, dans les mesures, il y a entre autres une instauration de 5 ans de prison pour la diffusion de fausses nouvelles sur le virus ou les mesures du gouvernement. Ça ressemble à l'Inde dont je vous parlais tantôt. Alors que les rares médias indépendants du pays font régulièrement l'objet de telles accusations dans la vie ordinaire. Aussi, la violation du confinement peut mener de 5 à 8 ans de prison. Rien de moins. Faut dire que l'état d'urgence était en vigueur depuis le 11 mars, mais depuis le 30, il est indéterminé, donc le président n'a plus à consulter le Parlement. Donc, le gouvernement et le président peuvent suspendre l'utilisation de certaines lois par décret, s'écarter des dispositions statutaires et introduire d'autres mesures extraordinaires. Tout ça dans le but de garantir santé, sécurité personnelle et matérielle aux citoyens et de protéger l'économie. Je vous ai dit premier ministre, je vous ai dit président, c'est premier ministre qu'Orban est actuellement, pardon. Sinon, vous dire que déjà depuis 2010, Orban et son groupe et son clan ont décidé de nombreuses mesures qui visaient les organisations indépendantes, ont multiplié les atteintes à l'état de droit dans le domaine de la justice, de la société civile, de la liberté de presse, etc. Donc, certains parlementaires de l'opposition et certains opposants politiques ont parlé de coup d'État avec cette mesure-là du 30 mars, de cap vers la dictature. Un porte-parole du gouvernement s'est limité à dire que le projet de loi est limité dans le temps par les pouvoirs de révocation du Parlement et aussi par la pandémie elle-même qui va finir un jour. C'est une belle fin appréhendée. Mais le pouvoir de révocation dont il parle du Parlement peut pas vraiment se faire parce que le parti Fidesz de Viktor Orban possède les 2/3 de la Chambre. Donc, ça prend les 2/3. Donc, c'est comme un cul-de-sac. Peut-être vous dire que dans les faits, actuellement, l'armée patrouille dans les villes du pays. Donc, l'armée est présente dans les rues de Budapest, entre autres. Que 140 grosses compagnies sont sous le contrôle militaire actuellement. Donc, des compagnies de production de voitures, de production de produits de consommation, de toutes sortes d'énergétiques sont contrôlées par les militaires et les policiers actuellement. Et il y a quand même une opposition qui se forme. C'est sûr que c'est difficile dans une situation comme celle-là. Mais le 30 mars, la journée de l'adoption du projet de loi sur l'état d'urgence indéterminé dans le temps, il y a une pétition qui a récolté plus de 40 000 noms en quelques heures. Donc, les gens s'organisent, mais ça va être difficile. Surtout que c'est très difficile déjà depuis 10 ans. Et justement, comment profiter de l'état d'urgence pour restreindre les droits de personnes de minorité? Ben, en pleine crise du coronavirus et avec la situation actuelle, il y a un projet de loi qui a été déposé visant à mettre fin à la reconnaissance légale des personnes transgenres en Hongrie. Rien de moins. Ça a vraiment rapport avec la crise actuelle. Ça a été soumis le 6 avril dans une série de mesures. Ça stipule que le genre devrait être défini comme le sexe biologique basé sur les caractéristiques sexuelles primaires et les chromosomes. Donc, dans les faits, maintenant, on va enregistrer le sexe à la naissance des personnes dans le registre civil hongrois et il ne pourra plus être changé dans le futur. Donc, voilà pour. Et c'est une réglementation qui a été appelée sur l'égalité des sexes et qui fait partie d'un projet de loi plus vaste sur un certain nombre de questions liées, non liées au coronavirus. Donc, ça a pris une semaine après l'état d'urgence indéterminé pour qu'il y ait des réformes imposées qui n'ont pas rapport avec la situation actuelle. Évidemment, en Europe, c'est la consternation. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a déclaré que cette mesure était contrainte au droit et à la jurisprudence de la Cour européenne. Les personnes transgenres, selon lui, ont le droit à la reconnaissance légale de leur sexe sur la base de l'autodétermination. C'est une étape essentielle pour garantir le respect de leurs droits dans tous les domaines de la vie, évidemment. Donc ça, c'est un exemple parfait de ce qu'on peut faire quand on profite d'une situation difficile. Peut-être vous dire que le 2 avril, il y a 14 pays de l'Union européenne qui ont déclaré qu'ils étaient profondément préoccupés à la suite de l'adoption de certaines mesures d'urgence dans certains pays, mais ils n'ont pas nommé la Hongrie. En passant, Viktor Orban a déclaré que c'était la faute des immigrants s'il y avait une propagation du virus dans son pays. Il a d'ailleurs expulsé des dizaines d'étudiants iraniens du territoire. Donc, et pendant ce temps-là, ben, en Hongrie, le système de santé là-bas ne va pas non plus. Il est débordé déjà avec seulement quelques centaines de cas. Donc, ça continue à se propager. Et avec l'état d'urgence et avec les droits qui sont suspendus, ça risque d'être encore pire. Les gens vont plus rester chez eux, n'iront pas se faire soigner et le système est débordé. Donc, voilà la situation en Hongrie où un autre dictateur en devenir ou déjà fait décide de s'amuser avec les droits des gens. Donc, voilà.
Toujours Simon à l'animation de cette émission préenregistrée des Apatrides Anonymes du 23 avril 2020. L'émission achève notre traditionnel dernier bloc pandémique, les suggestions d'une confinée. La confinée, c'est Marie-Ève. Elle va nous suggérer des films, des documentaires qu'on peut trouver facilement en ligne. On écoute ça dans un tout petit instant.
Cette semaine, pour mes suggestions d'une confinée, je vous parle d'une série documentaire produite en 2018 et disponible sur tout.tv depuis le mois de mars. Il s'agit d'Histoire d'une nation, une série française en 4 épisodes qui raconte l'histoire de l'immigration en France depuis 150 ans. Chacun des épisodes couvre une période particulière. On y suit les différentes vagues d'immigration au gré des grands moments historiques et des changements politiques, sociaux et économiques qui ont marqué chaque époque. C'est donc toute l'histoire de la France que l'on revisite, mais à travers les yeux de plusieurs générations issues de l'immigration qui nous racontent leurs souvenirs, leurs expériences, leurs espoirs et leurs déceptions. Le premier épisode couvre la période 1870-1920 et s'ouvre sur la Commune de Paris. Et puis, avec la Révolution industrielle, c'est d'abord une immigration européenne qui arrive en France, des ouvriers italiens et belges en particulier. Ce sont les années de l'affaire Dreyfus et l'antisémitisme qui vient avec, de la Première Guerre mondiale et la mobilisation des colonies, de l'après-guerre et l'arrivée massive des réfugiés russes, polonais et arméniens. Mais ce sont aussi les années de l'adoption de lois progressistes en immigration, comme celle du droit du sol, qui accorde la nationalité de toute personne née en France, mais aussi de lois régressives, comme celle qui déchoit de sa nationalité toute Française qui épouse un étranger. Le deuxième épisode, lui, couvre les années 1927 à 1954. Qui sont celles de l'assimilation par l'éducation universelle, mais aussi de la montée des fascismes en Europe et de la crise économique des années 30. En 5 ans, la France expulse 500 000 immigrants et immigrantes. C'est aussi l'arrivée au pouvoir un peu plus tard du Front populaire français et de la guerre civile espagnole qui pousse à l'exode des milliers d'Espagnols que la France interne dans des camps. Évidemment, c'est aussi la Seconde Guerre mondiale dans laquelle s'engagent des milliers d'immigrants, mais aussi dans la résistance. L'antisémitisme atteint des sommets avec Pétain au pouvoir et son slogan « La France aux Français ». Et encore une fois, l'après-guerre sera une période noire pour les personnes immigrantes en sol français, mais aussi dans les colonies où elles seront massacrées en masse. Viennent ensuite les années 1954-1974 avec les guerres d'indépendance dans les colonies, dont l'Indochine et surtout l'Algérie. À cette époque, 230 000 Algériens vivent en France, dans les bidonvilles en périphérie des grandes villes. De Gaulle est au pouvoir, les Algériens sont traités comme des terroristes. Après l'indépendance de l'Algérie, la France fait venir 1 million de rapatriés et les Algériens, quant à eux, qui vivent en France, perdent leur nationalité. Mais ce sont aussi les Trente Glorieuses, avec la construction massive de logements, l'apparition des allocations familiales et les besoins d'une main-d'œuvre étrangère. En 10 ans, 3,5 millions d'immigrants et immigrantes arrivent en France. Et avec mai 68, les travailleurs immigrants font pour une première fois entendre leur voix. Finalement, les années 1975 à 2005 sont celles de la génération née dans les cités. Les travailleurs immigrants font venir leur épouse en France, non plus pour seulement y travailler, mais pour y fonder une famille. Les cités du début des années 70 sont multiculturelles et sont un espace de solidarité intercommunautaire. Mais avec la crise économique qui éclate, le chômage monte en flèche, on revient aux idées des années 30 et on ferme à nouveau la porte à l'immigration. C'est la naissance du Front national, les années Chirac, les cités se vident et sont détruites. Et celles qui restent sont le théâtre d'émeutes de jeunes noirs et arabes qui vont inspirer le rap français et les films comme La haine et Ma cité va craquer. Bref, l'histoire d'une nation est vraiment à voir. En revisitant ces dernières 150 années, on constate que les populations immigrantes servent toujours de bouc émissaire. D'un côté, elles sont les premières à faire les frais des crises économiques, mais on n'hésite jamais à les utiliser comme cheap labor pour relancer l'économie ou pour reconstruire une France ravagée par la guerre. Et ce, peu importe que les gouvernements aient été de gauche ou de droite. Mais c'est aussi un documentaire qui rend hommage à la résilience et à l'apport de toutes ces générations immigrantes et qui, enfin, accorde une importance à leurs histoires et à leur vie.
C'est déjà la fin de cette 25e édition des Apatrides anonymes sur choc.ca, édition confinement en préenregistré. On a vraiment très hâte d'être en studio en direct tous les deux jeudis à 18h30. Peut-être bientôt, qui sait, on se croise les doigts. On peut nous écouter en balado sur choc.ca ou dans notre site web apatridesanonymes.info. On peut nous écrire sur apatridesanonymes@resist.ca ou via notre page Facebook. Comme promis, on conclut l'émission avec une pièce du dernier album de Danny Placard, album qui s'appelle « Je connais rien à l'astronomie » et la pièce en question, c'est « Pulperie ». C'était Simon au micro pour les Apatrides anonymes. Mes complices, Marie-Ève et Mathieu, on les applaudit chaleureusement. On se revoit bientôt pour plein d'autres actualités locales et internationales. Restez sur choc.ca et portez-vous bien.
J'en ai pas mangé. Faire un tour des étoiles. Faire longtemps que je suis pas allé. Doit faire 7 ou 8 ans, mais j'ai peur. Trop embossé. trop mangé.
J'ai peur d'attendre.